Je vous l'avais dit qu'on avait une grosse émission encore ce soir, donc une demi-heure passée en compagnie de Pierre-Luc Dubois. Et la prochaine, c'est avec Maxime Lapierre, flanqué de Danny Dubé, qu'on va retrouver à l'instant même. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir, messieurs, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Bonsoir, Danny.
Allô, comment ça va?
Ça va très, très bien. Danny a été habitué de jouer avec beaucoup de partenaires à la radio, même s'il y a un partenaire principal en Martin quand il fait l'analyse des matchs. Maxime, t'es habitué de jouer avec Guillaume, mais t'es été habitué de changer de trio à quelques reprises dans ta carrière. Alors, un nouveau duo ce soir aux amateurs de sport. Les gars, je vous demande, qui a gagné la transaction Pierre-Luc Dubois, Lainé, évidemment, avec Roslovic qui est impliqué là-dedans, là? Qui sera la meilleure équipe grâce à cette transaction-là? Danny?
Ben la meilleure transaction, c'est celle où il y a le meilleur fit. Puis moi, je pense que Pierre-Luc Dubois, il y a un meilleur fit. Donc, il y a une meilleure, ça ressemble plus à l'ADN de l'équipe que Lainé avec les Blue Jackets. C'est honnêtement, je pense que pour moi, si ça fonctionne pas avec les Blue Jackets, Lainé, Tortorella, c'est terminé. Tu peux pas éternellement te prendre comme ça avec tes joueurs vedettes en espérant toujours avoir le dernier mot et mettre en perspective que tu fais ça pour l'équipe quand, avant tout, on fait juste parler de toi.
Maxime, toi, c'est sûr que le temps va nous le dire, mais comme ça, quand tu analyses ça, là, as-tu envie de donner le gain ou l'avantage en échange à un des deux clubs?
Ouais, je suis tellement d'accord avec Danny. Ça a rapport avec le fit un petit peu. Je pense que le style de jeu là, à Winnipeg, là, la game pesante, comme on appelle, ça va fitter à merveille pour Pierre-Luc Dubois. On le sait, d'après moi, ils connaissent bien là-bas, en plus, là, avec son père qui est dans l'organisation. De l'autre côté, si Lainé, ça fonctionne avec Tortorella, côté chimie, puis qu'on crie pas trop après, puis on le laisse s'épanouir offensivement, je pense que ça peut être correct. Mon seul doute du côté de Columbus, c'est ça va être qui son joueur de centre. Parce qu'on s'entend que Patrick Laine, c'est un gars qui a un bon lancer puis il est capable de trouver l'ouverture et tout ça, mais est-ce qu'on va le mettre avec Koivu ou Domi? C'est-tu vraiment ça le joueur de centre là? Parce que je pense qu'on sous-estime un peu là, ce qu'il avait à Winnipeg avec Stastny puis parfois là, les autres bons joueurs qu'il avait là-bas, mais on va voir. Moi je pense qu'il est pas si bien entouré que ça, puis du côté personnel, j'aime vraiment mieux le style de joueur qui est Pierre-Luc Dubois. Là.
Et jusqu'à quel point, les gars, vous pensez que les Jets deviennent, si vous, donc les deux, vous pensez que c'est vraiment une bonne addition pour les Jets, est-ce que les Jets deviennent une bien meilleure équipe? Je ne sais pas si vous les aviez placés dans le top 4, donc en série de la division canadienne. Deviennent-ils plus redoutables? Ils ont surtout battu Ottawa là, cette année. Ils ont battu Calgary une fois en prolongation, deux défaites, une contre Edmonton. Tu sais, c'est tôt encore, mais où placez-vous Winnipeg maintenant qu'ils ont du bois?
Ben, je vais reprendre le bon sur ce que Maxime a dit par rapport à la configuration de l'équipe, parce que une des choses qui manque à Winnipeg, c'est un peu de poids à la défense. Je pense que leur défensive est quand même assez vulnérable, la brigade défensive. Oui. Je pense pas que c'est une brigade défensive qui peut aspirer à la finale de la Coupe Stanley, mettons, là, dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais par contre, quand tu as des joueurs de centre qui sont gros, lourds, engagés physiquement, rigoureux, responsables, ces gars-là vont venir prêter main forte aux défenseurs dans le fond de la zone. Je pense que ça va améliorer leur jeu à 5 contre 5, leur jeu autour de l'enclave, leur couverture homme pour homme, vont créer un petit peu plus de ça va être plus difficile, un peu plus de densité, ça va être plus difficile d'aller dans cette zone-là à cause de la grosseur des joueurs de centre. Donc ça, je pense que ça va aider les Jets de Winnipeg dans les circonstances.
Mm-hmm. Max, ouais.
Oui, puis, ben, je suis d'accord encore une fois. Il va falloir trouver le moyen justement d'aller trouver un défenseur à Winnipeg. Je sais pas là comment, mais si tu regardes à l'attaque, on est solide. Là. On a des bons joueurs, talentueux, des gros bonhommes comme Danny vient de le dire. Mm-hmm. Je me demande ce qu'on va faire avec Dubois parce que là, je regarde au centre, t'as Scheifele, Stastny. Est-ce que tu t'amènes Dubois pour le mettre troisième centre ou est-ce que tu descends Paul Stastny? J'en doute. Est-ce qu'on est capable d'en mettre un des deux à l'aile? Puis
Paul Stastny va probablement jouer à l'aile. Là. Semble-t-il qu'on se dirige vers une expérience où Stastny agirait comme ailier, Maxime. On verra,
ça,
là,
c'est parfait, parce que là, tu viens de te pacter deux très bons trios, l'avantage numérique, deux bons avantages numériques. Est-ce qu'il faut aller chercher un défenseur? Je pense que si tu regardes là, un Josh Morrissey, tu sais, un Pionk, c'est des bons petits joueurs, mais pas plus que ça. C'est des bons petits défenseurs qui font une bonne première passe. Là. Mais à part de ça, à Winnipeg, c'est simple, on a deux gros trios, puis un gardien but qui est excellent. Il faut aller chercher de la profondeur en défense.
Ben, continuons là-dessus, Danny. C'est identifié, tout le monde a des carences. Le Canadien en a eu à plusieurs positions. Là, cette année, un bon début de saison, on voit pas beaucoup de fissures dans le solage.
Il y a pas
ou dans
beaucoup
la,
de trous. À Montréal,
dans la fondation du Canadien. Là, mais du côté de Winnipeg, ils ont quand même, d'ici à la date limite des transactions, parce que, tu sais, on les a un peu tassés vite, je trouve, au début de l'année. C'est sûr que Byfuglien est parti. On dirait qu'ils sont passés à côté d'un cycle. Là, on a peut-être, je sais pas si on a l'impression qu'ils repartent un autre, mais leurs bons joueurs, c'est pas des jeunes de 22 ans, là, c'est des joueurs à maturité, là, Scheifele, Connor et compagnie. Donc, si bouchent le trou à la ligne bleue, ils ont quand même une couple de mois pour s'améliorer là, ne pourrait-il pas devenir une équipe dangereuse en série?
Moi, je pense qu'il manque de profondeur. Tu sais, je trouve qu'ils ont des forces évidentes. Puis leur profondeur, c'est une faiblesse évidente. Pour moi, il leur manque vraiment un gardien qui va être capable de prendre des minutes. Il leur manque une deuxième unité à la défense au complet. Ils ont un paquet de joueurs qui jouent dans leur alignement, des réguliers qui ne faisaient pas ailleurs, là, qui ont changé d'adresse. Il y a des joueurs qui vont prendre des minutes, là.
Fait que t'es pas en série, peut-être.
Non, je les ai pas placés en série.
OK, d'accord. En série.
Parce que, pour moi, là, je regarde les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, les brigades défensives, tu regardes l'an passé, le Lightning, avant ça, tu peux dire Saint-Louis, t'es fait une par une, là. C'est les équipes, c'est très rare que t'as pas quand même assez de profondeur à la défense. T'as pas mal de profondeur. T'as pas toujours des joueurs exceptionnels. Bon, disons que Saint-Louis était bien nanti, mais t'as un bon groupe, t'as un groupe de six, et je trouve que depuis quelques années, pour m'être amusé à regarder ça, les brigades défensives ne comptent que très, très peu de joueurs en bas de 6 pieds. La plupart, c'est un joueur en bas de 6 pieds, les équipes qui ont gagné, là, l'année dernière. C'est un joueur en bas de 6 pieds, puis en moyenne, c'est 6 pieds 2, c'est à peu près 210, la moyenne de la brigade. Et ça nous ramène, c'est comme il y a eu un virage, au début, on disait, OK, ça prend des joueurs mobiles, tout ça, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que le jeu est tellement, il y a tellement de pression sur les défenseurs, on veut tellement que les défenseurs pressent aussi en zone neutre, les adversaires et tout ça, que on va avoir des gars qui sont capables de patiner et qui sont capables de prendre des minutes, donc des gars plus costauds.
Puis ça, Mario, ça l'aide là, pour ajouter à Danny ce qu'il vient de dire. Ça l'aide pour la relance aussi. T'sais. Quand t'as des gros défenseurs, là, Danny parlait un peu des gros attaquants, les gros joueurs de centre de Winnipeg, mais quand t'as des gros défenseurs, comme on le voit si bien à Montréal, ils prennent leur joueur, le deuxième défenseur ou le joueur de centre récupère la rondelle, puis on retourne à l'attaque immédiatement. C'est le fun pour les attaquants, mais en même temps, tu gaspilles pas d'énergie dans ton territoire. Puis ça, côté momentum, dans un match de hockey, t'as le sentiment que tu performes, t'as le sentiment que t'as le contrôle de la partie.
Juste pour conclure, si vous voulez, les gars, sur la transaction Lainé contre Dubois et Rostovich, qui s'en va également à Columbus. Quand on dit... Pensez-vous que dans le cas... La relation, juste sur la relation, là, pensez-vous que Tortorella va tout faire pour que la relation marche avec Lainé, sachant tout ce que tu as dit tout à l'heure, Danny, là, qu'il risque d'être jugé plus sévèrement? Parce que là, il a peut-être eu le beau rôle. Là. C'est lui qui avait le micro plus souvent qu'autrement, puis il faisait porter l'odieux sur le joueur qui est Pierre-Luc Dubois. Sauf que là, il y a aussi le fardeau de faire fonctionner une relation avec le gars qui reçoit en retour. Est-ce qu'il va faire des compromis? Est-ce que ça va marcher, cette relation-là?
Ben moi, je pense qu'il va passer beaucoup par le directeur gérant. Il est pas fou, là. Tortorella, il sait très bien que Lainé et Kekalainen vont être en contact. Ils vont parler dans leur langue, ils vont être souvent ensemble, ils vont discuter, que ce soit en personne ou par téléphone ou par texto. Fait que lui, il sait qu'il a besoin tout de suite de mettre son gérant général de son côté, en disant, regarde, moi, je vais te tenir au courant, on va voir, on va travailler ça ensemble, etc., etc. Mais à la fin de tout ça, lorsque toutes les billes vont être sur la table, si Kekalainen n'est pas capable de voir le bout du tunnel, c'est là où la relation de confiance va s'effriter. Parce que c'est sûr que lui aussi, il a beaucoup à perdre. Et Lainé, pour lui, là, c'est son ticket à lui. Il faut que ça marche. Parce qu'à un moment donné, c'est beau là, faire plaisir au coach, mais c'est l'organisation qui prime. Là.
Exactement. As-tu quelque chose?
T'as plus le droit à l'erreur là, du côté de Columbus. Je pense qu'on a vu tellement de bons joueurs qui sont partis dans les deux dernières années. John Tortorella, on connaît sa personnalité. Ça fonctionne pas toujours avec tous les joueurs. Puis je pense que le fait d'avoir amené la situation Dubois sur la place publique, c'était pas la bonne chose à faire, autant par respect pour le joueur que par respect pour l'organisation. J'ai de la difficulté à croire que Kekalainen, c'est ça qu'il voulait, c'est de régler ça publiquement. Je pense que c'est un homme qui est très professionnel dans son approche, qui est très respectueux normalement. C'était pas la chose à faire. Puis là, si on se trompe en plus avec Laine, puis on veut pas le garder à long terme, ben là, il va falloir penser à changer d'entraîneur.
Maxime, t'es un ancien joueur, t'es fraîchement retraité et ça fait pas longtemps que tu joues encore dans la Ligue nationale. Tu peux-tu t'imaginer, je sais qu'il y a rien d'identique à ça là, que tu as vécu dans ta carrière, mais tu peux-tu t'imaginer de faire partie des Blue Jackets de Columbus? Un de tes bons joueurs demande à être échangé. Le coach fait passer un mauvais quart d'heure. Penses-tu que tu te serais rangé du côté des... Est-ce que c'est difficile de se ranger du côté du joueur parce qu'il doit se sentir isolé? Est-ce que veut pas les joueurs se rangent du côté de l'organisation?
Ben moi, ma façon de voir ça, ça a toujours été le joueur doit donner tout ce qu'il a donné sur la patinoire. Ce qu'il fait en dehors de la patinoire, ça me regarde pas. Si un gars est malheureux, peu importe la raison, s'il veut partir, ça c'est bien correct parce que dans une vie d'hockeyeur, t'as la famille, t'as les enfants, t'as les parents, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Si par exemple t'arrives sur la patinoire puis tu performes pas, là ça aurait causé un problème, en tout cas pour moi personnellement. Mais si le gars veut partir, s'il veut être échangé, s'il veut partir comme agent libre, pourquoi pas? T'sais, c'est sa vie à lui. S'il est pas heureux, t'as pas d'affaire à garder un gars. Pas parce qu'il fait un gros salaire, pas parce que il y a du temps de glace. C'est son choix, puis il a le droit, puis c'est ça devrait être comme ça. Je trouve ça dramatique la façon qu'on a contrôlé ça à Columbus. C'est un gros manque de respect. Ce joueur-là, c'est un jeune joueur, n'aurait jamais dû à s'expliquer devant ses coéquipiers. Au contraire, ça aurait dû se régler entre trois hommes, Tortorella, le directeur général et Dubois, puis un jour, ben tu rentres dans le vestiaire, puis tu dis, ben j'ai été échangé les boys, puis c'est moi qui l'avais demandé, je suis pas heureux ici. Je pense pas que tu dois rien à personne en dehors de la patinoire là, de ce côté-là.
Très bonne réponse. Et je vais juste récapituler quelques éléments de réponse de Pierre-Luc. Il dit que il a été honnête justement par rapport à ça. Je dis, est-ce que toute vérité est bonne à dire? T'sais, parce qu'on le sait que les organisations, quand ils veulent faire en sorte que quelque chose ne sorte pas, sont capables de contrôler une bonne partie de l'information. Là, celle-là, c'est quelque chose qu'ils ont décidé de pas contrôler. Je sais pas si c'est l'organisation comme telle ou quelqu'un qui était proche. Mais Pierre-Luc a dit qu'il a été honnête envers lui-même. Et il a pas dit qu'il avait été malhonnête envers les autres, mais que lui, il savait. Ça faisait 3 années qu'il était là. C'est pas facile à assumer. Là. Quiconque est à l'écoute, Danny, Maxime, les gens qui sont dans leur voiture, prendre une grosse décision dans la vie, la prendre quand on sait qu'elle va être controversée, l'assumer, ça prend du courage. Alors, j'ai très hâte de voir la suite des choses dans la carrière de Pierre-Luc Dubois parce que ça prenait du caractère. On peut le juger d'un bord ou de l'autre. On peut être plus corporatif et dire hey, « c'est le kid qui était dans le tort », comme ça rappelle une situation différente, mais Jonathan Drouin avec Tampa Bay, il y en a qui se disent « ah, peut-être qu'on aurait dû porter plus d'attention au fait qu'il y avait un problème là avant de l'amener », tu sais, mais je pense que Pierre-Luc, je suis pas trop inquiet pour la suite des choses. Les gars, vous avez pointé en direction des défensives des équipes canadiennes. Il y en a, Philippe Quentin posait la question hier à l'émission de Patrick Lagacé et en jasait avec Martin McGuire. Est-ce que la division canadienne est la plus faible des 4 divisions de la Ligue nationale? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que l'année de la pandémie, ou en tout cas la deuxième année dans laquelle nous vivons cette réalité de la pandémie, permettra à une équipe canadienne, dans le cadre différent qu'on a dans la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'une équipe canadienne pourra émerger de cela? On est sûr qu'il y aura une équipe canadienne dans le quatuor final. Est-ce qu'une équipe canadienne pourra remporter la Coupe Stanley? La question est entière. Il y a des bonnes équipes au Canada, mais il y en a plusieurs qui observent chacune des divisions. Je pense qu'il y a des clubs ordinaires dans chacune de ces divisions-là. Il y en a qui sont de dire ou d'affirmer, est-ce que la division canadienne est la plus faible des 4 divisions? Et ceux qui veulent être un petit peu mesquins, ils se disent, est-ce que c'est pour ça que le Canadien la domine? Parce que c'est l'une des divisions les plus faibles de la Ligue nationale. Je vous écoute, les gars. Maxime, tiens.
Ben non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une très bonne division, surtout si on se concentre là, sur les jeunes attaquants explosifs là, qu'on a à Toronto, Edmonton, les McDavid, Matthews, ces jeunes-là. On parlait des 2 premiers trios à Winnipeg, même une belle jeunesse à Ottawa. Je pense que la grande faiblesse dans la division du Canadien, c'est la défensive. Tu regardes une équipe comme Toronto, une équipe comme Edmonton, moi je trouve que ça fait pitié là, en défensive. On n'est pas capable de produire à l'attaque d'une certaine façon, de relancer de la bonne façon, mais en plus, on n'est pas très, très fort dans notre territoire. On en arrache énormément. Puis moi, si tu me demandes le côté division, je pense que la centrale est assez ordinaire là, avec les Chicago, Columbus, Floride, Nashville qui a des difficultés, Détroit cette année. Ça, pour moi, c'est la pire division là, ou celle qui est la plus facile, en tout cas pour une équipe qui est Tampa Bay, ça, c'est certain.
Danny, vois-tu les choses de la même façon?
Ben, pas mal. Écoute, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'on n'a pas...
La saison est jeune.
La saison est jeune. On n'a pas l'échantillonnage est pas très large. Mais moi, tu sais, ce que je trouve, c'est que dans le premier mois de l'année, le fait qu'il y ait eu cette pandémie, qu'il n'y ait pas eu de camp d'entraînement ou presque, là, qu'il n'y ait pas eu de match préparatoire, puis probablement que Maxime est mieux placé que moi pour donner une appréciation là-dessus, mais moi, je pense que le jeu actuellement est très erratique. Le jeu, c'est pas comme ça va être dans un mois. Là. C'est, mm-hmm. Tu sais, d'habitude, on disait, nous autres, la saison va se diviser en trois segments. Ben là, c'est peut-être qu'il y a peut-être un segment de plus, là. Parce que, justement, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, ou presque. Les joueurs, il y en a qui, ça fait quasiment un an qu'ils n'ont pas joué, là, quand ils ont commencé. Fait que, Tout ça mis ensemble fait que c'est le plafond salarial, la configuration, les équipes, comment les équipes ont été rebâties, les joueurs qui ont quitté, etc. Tout ça mis ensemble fait qu'on a une espèce de situation un peu spéciale où c'est très difficile de dire « Ah ben oui, on regarde l'année passée, telle équipe, on voit une progression. Je regarde Minnesota cette année, je les vois là. Je dis bah, qu'est-ce qu'ils font là? »
C'est temporaire, tu penses?
Je m'attendais pas à ce que Minnesota soit en avant de par exemple, Colorado. T'sais. Puis je pense que c'est temporaire, effectivement, que les bonnes équipes, à mesure que ça va avancer, ou également les équipes qui ont des vétérans, des joueurs plus expérimentés, à mesure que la saison va avancer, des gars qui habituellement ont des débuts de saison plus lents vont avoir de meilleures séquences à partir de d'ici un mois ou deux. Là. Donc, moi, je tu sais, c'est pas que je veux pas répondre à la question. Je trouve que la question, elle est hâtive.
Oui,
c'est
t'as raison,
très. Je trouve ça difficile de répondre.
Je suis d'accord avec Danny, Mario. Tu sais, c'est difficile aussi pour les vétérans, puis pour les gros bonhommes. Je pense, sans camp d'entraînement, là, on le remarque souvent, c'est difficile. Je me rappelle quand je jouais, moi, ça me prenait 2-3 semaines, puis ça me prenait mes 6-7 matchs hors concours pour reprendre le feeling de la rondelle, même si j'en avais pas un gros feeling, mais ça me le prenait pareil. Puis ça, je pense que ça va se régler. L'équipe qui me vient en tête dans notre division, je pense que Vancouver, si tu regardes le Peterson, la façon qu'il se comportait sur la patinoire durant les matchs contre le Canadien, tu vois que le gars, il manque un petit quelque chose. Puis c'est, normalement, c'est un joueur, c'est un talent naturel. Puis il manquait là, son explosivité, il manquait son contrôle de rondelle. Il y a un manque de confiance aussi. C'est une routine différente là, pour un jeune joueur comme Peterson. Donc, c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont redescendre au classement où ils se doivent d'être. Il y a des équipes qui vont remonter à cause de la qualité de l'alignement.
Puis il y a des blessés aussi, excuse-moi.
Non,
Mario,
continue.
Il y a des blessés.
J'aime
ça de
même.
Tu parles d'Edmonton, là. Clive Bomb n'est pas là. T'sais, les autres, déjà, ils ont une brigade défensive qui est assez moyenne, pour jouer le poli, là, qui leur manque. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ils sont moyens, très moyens. Ils sont super bons en avant, mais en arrière, c'est vraiment ordinaire. Leur meilleur joueur n'est pas là. Écoute, tu peux pas. Ça fait tellement mal, là. Tu perds un gars comme ça que tu avais dans ton alignement, qui est blessé, ben c'est sûr que pour eux, qui n'ont pas beaucoup de profondeur, ça a un impact direct. Et alors, moi, je pense que ça, c'est une affaire. L'autre chose qui est intéressante, c'est que on voit aussi les organisations, puis on va voir au cours des prochains mois, les organisations qui ont fait un meilleur travail que les autres pour le repêchage et le recrutement et le développement. Parce que là, à mesure que ça va avancer, ta profondeur va être sollicitée. C'est sûr qu'il va y avoir des blessés, là. Sans compter la COVID. C'est sûr qu'il va y avoir, à un moment donné, il va y avoir un petit peu de mouvement personnel. Et les équipes qui sont mieux nanties, ben, normalement, vont passer plus facilement à travers cette période d'adversité.
Moi, je suis d'accord avec vous autres pour dire, puis même si j'ai posé la question à la suite de la discussion que j'entendais hier par rapport à ça, honnêtement, j'espère que la saison va prouver le contraire. Il se pourrait que la meilleure équipe de la Ligue provienne de la division canadienne. Mais à moins qu'Ottawa ne se ressaisisse, que Vancouver ne se ressaisisse, que Winnipeg n'améliore sa défense, j'ai tendance à penser que c'est certainement pas la plus forte, en tout cas peut-être l'une des deux plus faibles, par le fait qu'il y a peu de joueurs autonomes qui viennent jouer pour les équipes canadiennes. Le Canadien est un peu une exception à la règle cette année. Et qu'est-ce qui arrive? Boum! Tout à coup, c'est comme si le Canadien venait de sauter d'un bond de 20 pieds là, dans la perception qu'on a de cette équipe-là par rapport à la qualité. Je ne sais pas si ça aurait eu le même effet dans chacune des divisions. division. Certainement pas si t'avais Tampa Bay dans la même division. Toronto, n'ayant toujours pas réglé sa défensive, même s'ils ont bien du talent puis bien du flash en attaque, demeure une équipe vulnérable. Mais j'espère quand même que la compétition entre les meilleures équipes canadiennes propulse une équipe canadienne là à avoir du succès en série. Je le souhaite. Mais je crains, et je vous relance là-dessus, que le Canadien prenne des mauvais plis à jouer contre des équipes qui sont pas hermétiques.
Ça, j'ai bien de la misère avec ça, là, mais moi, je suis curieux d'entendre Maxime sur la question des deux puis trois matchs contre la même équipe. Comment tu vois cette situation-là? Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur le classement?
Ben, je pense que oui. Je pense que, par exemple, comme cette semaine, là, contre Vancouver, on l'a vu, tu prends cette équipe-là deux, trois matchs de suite, puis eux, ça va pas bien, ils ont un mauvais début de saison, ils performent pas comme ils devraient. Ben là, tu viens d'aller chercher des gros points dans un mauvais timing pour eux autres, tu sais. Mais pour revenir à ce que Mario disait, le Canadien, je pense qu'ils sont performants à cause des nouvelles acquisitions. On a été chercher de l'expérience, des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Moi, je pense qu'ils seraient capables de compétitionner contre n'importe qui dans la Ligue nationale. En ce moment, je pense à une équipe contre qui ils ont joué très souvent dans l'histoire. C'est simple de penser aux Bruins de Boston. Est-ce que le Canadien serait capable de performer contre eux 100%. Je pense qu'ils ont une très bonne équipe.
Ils sont
encore meilleurs que les Bruins en défensive. Parce que si on s'en va dans l'Est, les équipes comme Washington puis Pittsburgh, aucune gêne. Tu sais, le Canadien, ils sont dans cette division-là, ils vont bien s'en sortir à cause de que tout le monde est dans la bonne chaise, pour de la profondeur. Est-ce que c'est à cause de la faiblesse des autres équipes, ça, du tout?
Moi, je vais, Mario, pour prendre la balle au bon sur ce que Maxime
dit. Ben oui, j'aime ça quand ça rebondit de même.
Moi, si je comparais le Canadien là avec toutes les équipes, une équipe qui a gagné la Coupe Stanley, puis le Canadien me fait penser à cette équipe-là, c'est Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, là, quand ils ont eu les changements, l'année qu'ils ont gagné la Coupe, tout ce qui leur manquait, c'était quelqu'un vraiment pour prendre le contrôle du filet. Ils étaient forts, ils étaient gros à défense. Il y avait quatre trios. Il y avait rien de spectaculaire dans leur game, si tu veux, là. C'était pas une game spectaculaire. Ils jouaient du jeu de tu sais, une guerre de tranchées. Ils jouaient quatre trios, hein, ouais. Puis on lance la rondelle derrière les défenseurs. Puis, tu sais, on magane l'adversaire. On a deux gardiens qui peuvent jouer. Je trouve que le Canadien, si tu regardes comment l'équipe est bâtie, ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup à cette équipe-là.
Oui, t'as raison. C'est absolument que ça se ressemble. Puis, je veux dire, Marc Bergevin a toujours regardé d'un œil très intéressé. Même cette année, l'Est s'est mis à plus dominer. Là, il a toujours eu beaucoup de respect pour la façon dont certaines équipes de l'Ouest étaient bâties. Puis d'ailleurs, les gars qui étaient allés chercher, puis ça aide sans doute à l'acclimatation, là, beaucoup de joueurs qui étaient allés chercher jouaient dans des équipes où il y avait des systèmes établis qui sont pas très, très loin de ce que le Canadien pratique normalement. Là. Mm-hmm. Tu sais, Toffoli à Los Angeles, les années qui ont gagné, tu sais, c'était Saint-Louis, Edmonton et compagnie. Dans le cas de Columbus, évidemment, Anderson n'ont pas besoin d'en rajouter sur le fait que c'est un système défensif. Fait que t'intègres des gars très, très bons dans les deux sens de la patinoire généralement. Et un petit mot, les gars, il nous reste quelques instants quand même, mais prenons le temps qu'il faut. Wayne Gretzky a 60 ans aujourd'hui. Et ça, c'est preuve que même les plus grands n'arrêtent pas de vieillir, la roue tourne pareil. Patrick me demandait ça tout à l'heure à son émission. Avez-vous des souvenirs, vous, particuliers de Wayne Gretzky? Maxime, toi, comme joueur, je sais pas quel âge t'avais quand t'as découvert Wayne Gretzky. As-tu représenté une idole pour toi ou tes idoles sont plus jeunes que Wayne Gretzky?
Ben moi, mon idole, c'était Mario Lemieux, mais j'ai vécu un beau moment avec Wayne Gretzky là, quand que je jouais à Saint-Louis. J'ai eu la chance de le rencontrer dans un match là, d'exhibition contre les anciens, puis tout ça. Puis j'étais assis à côté de lui dans le vestiaire, j'ai pris une photo avec, puis quel gentleman. Tu sais, c'est un gars qui traite tout le monde de la même façon. Il m'a parlé, comment ça va, aimes-tu Saint-Louis, puis bienvenue dans le club, puis tout. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment un bon monsieur, puis tu sais, il riait parce que ça faisait longtemps qu'un joueur actif, il avait pas demandé une photo, mais c'est Wayne Gretzky. Je pouvais pas
penser à côté.
Tant que tu n'as pas demandé le numéro de sa fille, tu sais. Toi, Danny, Wayne Gretzky.
Ben, écoute, moi, c'est quand même assez. C'est un gars qui m'a marqué. Ben, au départ, on a le même âge, tu sais.
60 non, années.
61, moi, c'est au mois de mai. Je suis venu au monde en 61, moi aussi. Puis, à un moment donné, je raconte ça, j'étais chez ma petite copine, j'habitais sur la Côte-Nord.
Oui.
Puis, je regardais le championnat du monde, puis il jouait. Fait que, puis là, j'ai réalisé à quel point c'était un joueur absolument extraordinaire. Je le regardais jouer, puis je me disais, Hey, c'est incroyable. Puis là, je voyais le joueur, toute l'ampleur de sa contribution, ce qu'il faisait, comment il était extraordinaire. Tu sais, écoute, il avait dominé, là, j'en avais eu, il avait joué 6 matchs, j'ai eu ça devant moi, là, 17 points. Puis, écoute, c'était extraordinaire. C'était vraiment un joueur, pour moi, phénoménal. Et je m'étais beaucoup intéressé à sa façon de jouer parce qu'il jouait complètement à l'inverse de ce qu'on voyait à l'époque. Oui. Il faisait les choses différemment, il était unique.
Ça avait attiré ton œil tout de suite, qu'il avait une façon différente de jouer.
Puis après, l'influence de son père, puis toutes les histoires à propos de comment lui enseigner à jouer, etc., je trouvais ça fascinant. C'est toujours un personnage qui m'a fasciné, puis parmi les joueurs de la Ligue nationale, ça a été peut-être le plus grand ambassadeur, là, parce qu'il y a eu des très, très grands joueurs, dont Mario Lemieux. Mais pour être un ambassadeur, tu transcendes ton sport. Il faut que tu ailles, c'est pas juste sur la glace, c'est aussi à l'extérieur, c'est comment tu composes avec les médias, comment ta générosité, ton accessibilité, comment tu redonnes dans la société, etc. J'ai trouvé que lui, vraiment, il a été assez exceptionnel.
On peut toujours avoir une discussion sur qui a été le meilleur joueur de tous les temps, toutes positions confondues, mais quand tu englobes tous les aspects que tu viens de dire, je pense pas qu'il y ait personne qui peut entrer dans la même conversation que lui. Compte tenu de l'impact qu'il y a eu quand il a été changé à Los Angeles, tu sais, des fois un peu contre son gré, là, c'était hors de son contrôle, mais veut pas le développement du hockey aux États-Unis, en Californie. Sans Gretzky, là, on peut. Je dis pas que ça se serait pas développé, mais c'est sûr qu'il a permis de prendre l'autoroute, lui-là. Là.
Mais tu sais, les astres s'alignent. T'sais, je regarde Gretzky et Lemieux. Puis tu regardes les deux organisations, tu sais, les deux ont eu des. Ils ont déjà des dauphins. Tu sais, ils ont eu Crosby là-bas. Maintenant, ils ont Mick David. Tu sais, c'est fascinant
de voir
ça.
C'est vrai, t'as raison.
Tu sais, nous autres, à Montréal, tu sais, c'est quand le prochain Guy Lafleur? Non, mais c'est vrai, tu sais. Je suis pas sarcastique. Écoute, c'est une question de hasard à un moment donné, là. Mais écoute, c'est fascinant de voir ça, ces grandes organisations-là qui réussissent à avoir un joueur comme ça. C'est un grand privilège. Tu sais, les Islanders, c'était une grande organisation. Ils ont de la difficulté avec ça. Puis, même s'ils ont eu Tavares, c'est un autre genre de joueur. Ça transcende pas comme McDavid. Il n'y a pas personne qui va me dire que c'est dans la même catégorie. C'est une autre affaire complètement. Là.
Et tu m'interpelles quand tu mentionnes Mario Lemieux ou Wayne Gretzky, parce que quand tu nommes les deux, tu me rappelles certains de mes plus beaux souvenirs de hockey comme téléspectateur. C'est Coupe Canada 1987, la rencontre des deux dans chandail, dans une même équipe. Ça fait partie ça fait partie de ce que j'ai vu de pas mal. J'ai pas vu grand chose de plus beau puis de plus spectaculaire que ces deux-là ensemble, sur la glace, dans le tournoi de 87. C'était exceptionnel. Par rapport au fait qu'Akan, prochain Guy Lafleur à Montréal, on est plusieurs à le souhaiter ce jour-là. Ben, ça va arriver le jour qu'un Pierre-Luc Dubois va demander à être échangé puis qui va atterrir ici, ou qu'un gars va tester l'autonomie comme, puis je dis pas que Pierre-Luc et Guy Lafleur, mais je veux dire un gars de gros calibre. Là, il y en a d'autres. Un gars qui va tester l'autonomie, qui voudra venir à Montréal plus tôt dans sa carrière. Daniel Brière le fait très, très tard dans sa carrière. Je vois pas d'autre façon, sinon finir dernier puis de gagner à la loterie, parce que même finir dernier, ça ne garantit pas, malheureusement. Puis d'ailleurs, c'est une injustice que New York ait gagné à la loterie.
En ce moment, Mario, on commence à attirer des joueurs, je pense, avec le talent qu'on déploie sur la patinoire. Ça va attirer de plus en plus, j'en suis convaincu.
Moi, j'aime ça finir sur une note positive. De même, Maxime, là, m'a dit que ça fait rêver, ça. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est sûr et certain que ce qu'on a vu dans la bulle,
la
victoire
ça a influencé
un petit peu. Exactement. Puis ça joue gros, la victoire. Imagine si le Canadien avait un début de saison atroce. Les gens ne goberaient pas le fait que le Canadien aurait dû faire une offre, là, meilleure offre que les Jets pour aller chercher du bois. Tu sais, ça passerait pas. Là, ça passe parce que l'équipe va bien. Le monde, ils me disent qu'ils ont quasiment eu peur qu'on touche à leur équipe en ce moment. Ils sont pas habitués et que ça y aille bien.
Les noms, quand tu parles de Nick Suzuki, il n'y a pas un chat qui veut qu'on touche à Suzuki, là, quand même. Là.
Exact. Mais vous avez entendu, hein, le Canadien était l'une des trois équipes, mais si t'as pas de star mécontente de la trempe de Laine à échanger, tu peux pas discuter bien plus que 25 secondes, à part si tu prends météo là-bas, là, tu sais.
C'est ça. Mais moi, je vais terminer en te disant ceci, là. Moi, j'aime quand même mieux les problèmes que je connais que les problèmes que je connais pas.
Ah, Un autre. Ah. Ça, c'est une finale plus. Maxime, dites quoi de plus positif, là? parce que là, il m'a complètement désarçonné, là. On partait.
Ah non, ça, c'est profond, là. C'est profond en temps d'envoi, ça, là.
On peut y passer, puis se reparler la semaine prochaine. Là, on donne du temps, les gars.
Si on était à poche bleue, on ouvrirait une bière, puis on essaierait de gérer ça. Mais là, c'est pas à soir. Hey, merci, Danny. Merci, Maxime, les gars.
Salut, Maxime.
C'était une belle année. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Louis Domingue. Je sais pas si il y a un nouveau pain qui sort du four. Notre ami Louis va nous parler des Flames de Calgary, les prochains adversaires du Canadien dans les deux prochains matchs. À ne pas manquer dans quelques instants.